RCF.
Chers auditeurs, bonjour, c'est le retour des Neveux de René. Vous êtes autour de la table avec de gauche à droite Nicolas Lemoine, Anne Bonneau, Sylvain Contasso-Vivier et moi-même Nazim Fattès. Donc nous allons reprendre pour cette nouvelle saison, cette nouvelle année scolaire et universitaire, notre parcours des textes classiques ou introductifs de la philosophie. Et pour rappel, l'émission Les Neveux de René vise à faire découvrir la philosophie dans ce cas-là de difficile et en même temps d'accessible. Et donc nous nous confrontons à des textes importants. Alors l'an dernier, nous avons abordé l'Apologie de Socrate, qui est un texte de Platon. Nous avons aussi fait un certain nombre d'émissions sur le discours de la méthode du père René, hein, René Descartes, à qui nous empruntons le prénom pour cette émission. Ensuite, nous avons parlé du Gorgias de Platon, en revenant au monde grec. Et puis, nous sommes revenus au XVIIe siècle, peut-être pour compléter Descartes avec Pascal, et nous avons consacré 6 émissions sur Pascal. À la suite de quoi, nous avons fait un saut dans le XXe siècle avec Camus et 5 émissions qui étaient consacrées à son roman, qui est à moitié un roman, à moitié un essai, La Chute. Et puis nous avions refait un saut chez les Grecs avec le Criton, qui est un autre texte qui vient à la suite de l'Apologie de Socrate. Voilà. Voilà le parcours que nous avions fait, le parcours philosophique que nous avions fait l'an prochain.
L'année dernière.
N'importe quoi. L'an dernier.
Et nous avions terminé par quelques émissions.
Voilà. Alors, les 2 émissions que nous avions terminées, c'était sur Jean-Marc Lévy-Leblond. Alors, qui n'est pas proprement dit un philosophe, mais qui est un savant physicien. Un scientifique, comme on dit de nos jours, mais qui s'intéresse à la science avec un fond philosophique et un intérêt philosophique. Alors, pourquoi nous sommes-nous intéressés à Jean-Marc Lévy-Leblond ? Alors, bon, déjà parce que c'est un auteur intéressant, mais aussi parce qu'on a la chance de l'accueillir à Nancy prochainement. Et donc, chers auditeurs et chères auditrices, prenez votre agenda pour noter que Jean-Marc Lévy-Leblond fera une conférence le mardi 3 octobre à 20h. Dans la salle d'honneur des universités, pour parler du thème « Pouvoir de la science, science du pouvoir ». Et donc il s'agira d'examiner la position de la science au XXe siècle à travers des figures tout à fait passionnantes comme Fritz Haber, Albert Einstein, Robert Oppenheimer et Alan Turing. Donc ne ratez surtout pas ce rendez-vous qui aura lieu le 3 octobre à 20h dans la salle des universités de l'Université de Lorraine, qui est à la fac de droit, place Carnot. Alors, nous allons, pour cette émission, nous proposons aux auditeurs de travailler sur un texte. Hein. Nous rappelons que nous travaillons toujours sur des textes. Et le texte que nous avons choisi d'aborder ici s'appelle « Le grand écart, la science entre technique et culture ». C'est une conférence prononcée par Jean-Marc Lévy-Leblond qui a été éditée. Alors on la trouve aux éditions Manutius, c'est bien ça, pour 4 euros seulement. Voilà, alors la diffusion est faite par Harmonia Mundi, le diffuseur qui s'est fait connaître par les disques. Donc ça se trouve très facilement, au prix de 4 euros. On peut le commander et se procurer ce texte qui est très court. Alors malheureusement, c'est écrit petit, hein, ça a posé quelques problèmes à certains, c'est pas évident, mais bon, voilà, c'est un texte qu'on peut se procurer très facilement. Alors, je souhaite donner la parole à Sylvain, qui va tout de suite nous mettre dans l'ambiance en lisant une partie qu'on a
un premier passage
qu'on a pensé être un peu le cœur le cœur de cette conférence,
un peu la problématique effectivement de la conférence. Alors je cite, hein. Si l'on veut adopter un point de vue concret de façon à ne pas parler de science en un sens si général que le mot perd sa signification, il convient de considérer la science sans séparer les connaissances qu'elle produit de la façon dont elle les produit. Donc voilà, en fait, le passage, hein, c'est terminé.
Alors, est-ce qu'on pourrait pas le relire, hein, simplement, pour que les auditeurs se plongent vraiment dans cette ambiance et voient quelle est la question qu'on va se...
Il n'y a pas de souci. Donc, si l'on veut adopter un point de vue concret, de façon à ne pas parler de science en un sens si général que le mot perd sa signification, il convient de considérer la science sans séparer les connaissances qu'elle produit de la façon dont elle les produit. Voilà.
Alors, pourquoi il y a un questionnement philosophique ici ? Il me semble que ce que nous dit Jean-Marc Lévy-Leblon, c'est qu'on ne peut pas employer science dans le mot, dans l'acception vague et commune qu'on en fait de tous les jours. Et c'est un peu ce qu'on avait dit pour le mot philosophie, hein, n'est-ce pas ? Chacun dit « oui, moi j'ai ma philosophie, toi t'as ta philosophie », et ainsi de suite. Si on emploie le mot philosophie dans ce sens-là, il ne veut plus rien dire. Jean-Marc Lévy-Leblon ici nous dit « attention, c'est la même chose avec science ». Il s'agit de réfléchir vraiment, qu'est-ce qu'on entend par là ?
Voilà. Tout à fait.
Alors, au sens contemporain du terme, la science n'est pas juste une somme de connaissances, mais c'est la façon dont on a obtenu ces connaissances. Donc, l'idée de science est indissociable de la méthode qui permet d'accéder à ces connaissances.
Alors, c'est intéressant parce que si tu dis méthode, évidemment, cela signifie Descartes. Hein, qui dit Descartes, dit méthode, dit Descartes, pardon. Mmh. Et ça veut dire que peut-être que si on veut comprendre le mot science dans un sens précis et philosophique, donc, et si on veut philosopher avec ce mot-là, il s'agit de refaire un cheminement pour voir comment on est arrivé à la méthode cartésienne, primo, comment on est arrivé jusque-là, et ensuite... Qu'est-ce que la méthode cartésienne dit de notre temps ? Est-ce qu'on est toujours dans le même sens du mot science ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ce mot-là a encore changé de sens ? Voilà. Donc, c'est ce questionnement-là qu'on propose d'examiner avec les auditeurs. Oui. Alors, on va repartir du premier chapitre. Le premier chapitre, évidemment... qui est abordé par Jean-Marc Lévy-Leblon, c'est...
Le passage qu'on a lu est au chapitre 2.
Voilà, il est au chapitre 2, il est à peu près...
Page 18.
Page 18, merci de le rappeler. Donc, on repart page 10, hein, ou page 11, et Jean-Marc Lévy-Leblon nous dit « Commençons par nous poser une question simple. Qu'est-ce que la science ?» Hein, donc, le « qu'est-ce que » c'est la méthode philosophique par excellence, hein. Comme Socrate qui arrête pas de dire bah, qu'est-ce que le savoir, qu'est-ce que la piété, qu'est-ce que la force, qu'est-ce que la vérité. Ti esti en grec, hein, le qu'est-ce que, dès qu'on voit du qu'est-ce que, on est dans la philosophie. Alors, quels sont les éléments que nous donne Jean-Marc Lévy-Leblon ? Anne, tu veux en rappeler quelques-uns pour commencer à entrer dans ce questionnement ?
Oui, déjà, il dit, donc c'est pas forcément la première chose qu'il dit, hein, mais il dit que la science doit être dissociée de son application directe, hein, grosso modo. Donc, par exemple, il remonte aux hommes préhistoriques et il nous dit bon, les hommes préhistoriques avaient des connaissances sur la culture, avaient des connaissances sur les animaux pour chasser, mais c'était des connaissances qui étaient directement appliquées. Ça, la science doit avoir une certaine distance par rapport à ce genre de choses.
Alors, je voudrais juste te poser une question. Ça, ah bon ça m'est venu à l'esprit quand tu as dit ça. Il y a, par exemple, au musée de la préhistoire à Saint-Germain-en-Laye, il y a une très belle sculpture qu'on appelle Notre-Dame de Bassompuy.
D'accord.
Qui est une vraie œuvre d'art.
Oui.
Tu vois, on voit que c'est... Et puis, il y a un certain nombre d'œuvres d'art. Alors, on peut dire que d'une certaine façon, les hommes préhistoriques faisaient aussi quand même de l'art. Ils n'étaient pas que dans la survie. Hein.
Alors qu'ils étaient artistes, ça c'est absolument indéniable. Hein, quand on voit toutes les peintures rupestres, ça c'est complètement indéniable.
Ouais.
Oui.
Bon, mais alors apparemment, qu'il faut pas faire non plus des hommes préhistoriques uniquement des gens préoccupés de survie. C'est
oui.
ça que je voulais
mais
dire.
Mais non, c'était pas le propos. En fait, je pense pas que c'était son propos non plus.
Pour essayer de dire que les connaissances qu'ils avaient emmagasinées. N'avait pas pour objet la connaissance en tant que telle, la vérité en tant que telle, mais avait pour objet juste de pouvoir vivre dans leur environnement.
Bah, c'est ce que je dis. Non, je ne suis pas d'accord. Mm-hmm. Je pense qu'il y avait des connaissances qui n'avaient pas que pour but de vivre. Par exemple, les connaissances qui permettent de faire des belles sculptures ou des belles tapisseries. Peinture non, rupestre, pardon.
D'accord, oui.
C'est pas encore de la tapisserie.
Oui,
mais
oui.
Bon.
Oui, c'est vrai.
Donc je dis, ce n'est pas vrai. Il y avait d'autres types de connaissances qui n'étaient pas la survie immédiate.
Non, mais elle avait une application immédiate.
Oui, oui, d'accord. Mais c'était pas en tout cas la survie.
Mais l'art était l'application de
d'accord,
ces connaissances.
D'accord, d'accord. Alors, voilà. Qu'est-ce que nous dit d'autre Jean-Marc Leblond dans le début de sa conférence?
Alors,
la parole par lui. Il mentionne l'importance de l'écriture.
Oui. C'est-à-dire que le fait de prendre une distance par rapport à l'objet sur lequel on accumule les connaissances nécessite un certain niveau d'abstraction. Et ce niveau d'abstraction nécessite de maîtriser l'écriture.
Pour être transmis, oui.
Pour être transmis. Hein, on n'agit pas uniquement par pure imitation. En regardant un maître travailler, puis en commençant à imiter ses gestes, et puis pour commencer à réussir à les reproduire, pour devenir un bon artisan, il s'agit ici de saisir des concepts abstraits, et cette abstraction, pour Jean-Marc Lévy-Leblond, nécessite l'écriture.
D'accord. Alors, quel exemple, donc, on a besoin d'écriture, mais ce qu'il nous dit, c'est que, attention, c'est pas seulement là où il y a de l'écriture qu'il y a de la science, c'est ça?
Absolument.
Voilà. Et donc, quel exemple va-t-il nous donner pour qu'on aborde vraiment un exemple de science?
Le tout premier exemple qu'il mentionne, c'est les mathématiques chez les Grecs.
Mm-hmm.
Où en fait, il explique bien que les Grecs s'interrogent à un moment donné sur les mathématiques, sur des connaissances qui n'ont pas de but applicatif direct.
Oui.
D'accord.
Oui.
Donc voilà.
D'accord.
C'est vraiment le premier grand exemple, entre guillemets, de ce qu'on pourrait appeler science.
Alors, pourquoi dites-vous que les mathématiques n'ont pas d'application directe? Enfin, les mathématiques, ça sert à construire des temples, à faire des champs, à régler l'administration d'un pays. Qu'est-ce qui fait dire à cet auteur que les mathématiques grecques euclidiennes n'ont pas d'application directe?
Il dit par exemple que ce qui nous surprend pas mal, que par exemple pour construire les pyramides, on ne s'en servait pas.
Mmh.
Voilà. Donc il dit que les gens avaient des connaissances empiriques et finalement ils n'avaient pas besoin de ces connaissances mathématiques et qu'ils ne les utilisaient pas ou peu.
Oui.
Voilà. C'est ce qu'il nous dit.
Est-ce que vous pouvez rappeler en quoi consistent ces fameuses démonstrations d'Euclide? De quoi s'est occupé Euclide finalement?
Il s'est occupé de formaliser la géométrie. Hein,
Alors ça veut dire quoi formaliser?
C'est-à-dire classer par exemple les formes élémentaires, triangle, rectangle, carré, cercle, etc.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire plus encore? Est-ce que ça ne veut pas dire que quand je veux prouver la vérité d'une chose, je dois prendre un chemin de raisonnement bien précis et suivre une forme de raisonnement bien précis? Est-ce que ce n'est pas ça que veut dire Euclide? Voilà. Donc il ne s'agit pas d'avoir raison pour avoir raison, il s'agit non seulement d'avoir raison, mais en plus de suivre un chemin précis. Donc,
ce qu'on peut retenir de ce que dit Jean-Marc Lévy-Leblond, c'est que pour le technicien, ce qui compte, c'est que ça marche.
Oui.
Alors que pour le mathématicien, ce qui compte, c'est que le raisonnement soit juste et qu'on soit dans le vrai.
D'accord. Alors c'est intéressant que tu aies mentionné cette question du vrai. On va l'aborder dans la seconde partie de l'émission et on va voir comment, cheminant justement de quelque chose qui marche, on va se poser la question de la vérité. Vous êtes bien avec les Neveux de René, Chemin de pensée sur RCF, émission consacrée à la philosophie, et nous abordions un texte de Jean-Marc Lévy-Leblond intitulé « Le grand écart, la science entre technique et culture ». Voilà. Alors notre débat portait sur la question de la science, d'une définition de la science. Définir, c'est une attitude proprement philosophique, et nous avions commencé par dire qu'il y avait au départ des connaissances acquises par les êtres humains, mais que ce qui s'appelle science demande un certain détachement par rapport à ça, et d'une certaine façon va poser la question de la vérité. D'accord. Alors, dans la troisième partie de sa conférence, intitulée la deuxième partie, excusez-moi, des sciences inutiles, nous nous interrogions sur le fait que les mathématiques ne sont pas utiles nécessairement en tant que telles, en vue d'une application pratique, mais qu'on cherchait des raisonnements précis pour être sûr, lorsqu'on dit quelque chose, que c'est vrai. Et le vrai n'est pas le vrai que ça marche, c'est pas parce que ça marche que c'est vrai parce que j'ai suivi un chemin discursif, un chemin, donc un logos
rationnel. Oui.
Rationnel, hein. On va dire que le mot ratio est un mot latin, le mot grec qui lui correspond c'est le mot logos, le mot qu'on entend dans biologie, géologie et ainsi de suite, et toutes les sciences finalement. Alors on va peut-être lire un passage de Jean-Marc Lévy-Leblond où il est question de ce logos et une référence à Platon.
Oui, donc c'est au chapitre 2, ça commence page 15 tout en bas.
Voilà, alors Nicolas, tu vas nous lire, oui.
La mathématique chez les Grecs joue un rôle essentiellement philosophique. Au fronton de l'Académie de Platon, on lit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Autrement dit, la mathématique grecque est un exercice de développement de la pensée logique qui exemplifie la possibilité d'atteindre à des vérités démontrées et joue un rôle très important dans le développement d'une philosophie rationnelle. Ainsi d'ailleurs, aussi que dans le développement de la démocratie politique.
D'accord, merci Nicolas. On va lire la suite, juste dans la suite. Peut-être qu'on peut déjà commenter quelques mots. Hein. C'est drôle parce que, vous voyez, ici, il dit pensée logique. Il dit pensée logique. Mais ce qu'il faut entendre dans pensée logique, tout le monde sait ce que c'est qu'une pensée logique. C'est ça qui est drôle. Or, ce qu'il faut entendre dans pensée, on entend tous le mot logique. Hein. On dit c'est logique, c'est pas logique. Mais là, il dit juste après, qui exemplifie la possibilité d'atteindre à des vérités démontrées. Donc, logique dans le sens euclide scientifique du terme, ça signifie démontrer. Hein? C'est pas du tout dans le sens commun logique. Quand on dit c'est logique, on n'entend pas c'est démontrer. Donc ça c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la référence à Platon.
Alors, on sous-entend quand même que ce que l'on dit est issu d'un raisonnement. Quand on dit c'est logique, il y a quand même un raisonnement sous-entendu derrière.
Qui s'enchaîne.
Ouais, mais c'est justement pas un raisonnement souvent élaboré. Si tu dis que c'est logique, ça veut dire bon, ça tombe sous le sens.
Or, dans certains contextes, ça peut être pris comme ça.
Euclide, quand il te démontre quelque chose,
ah bah là,
c'est une suite de propositions, ouais. Tu vois. C'est ce que Descartes appellera les longues suites de géomètres, de raisonnement dont se servent les géomètres. Donc là aussi, il s'agit d'entendre. Alors. Ce qui est intéressant, c'est que la phrase que tu as lue, Nicolas, elle se termine par elle débouche sur quoi ? Sur le développement de la démocratie politique. Alors, tu peux lire peut-être la suite de ce que nous dit Jean-Marc Lévy-Leblond ?
Oui, donc les mathématiques jouent un rôle important dans le développement de la démocratie politique, puisque l'acceptation du débat démocratique repose sur le postulat que par le logos, par le discours argumenté, il est possible de convaincre vos adversaires ou vos partenaires. Et les mathématiques, avec leur méthode de démonstration assurée, offrent un modèle réduit, si j'ose dire, de cette capacité de la raison à débattre et à convaincre. Ouais.
Alors ça peut nous rappeler ce qu'on avait dit sur le Gorgias. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment, on est en plein dans ça. Quoi. Donc, c'est intéressant parce qu'on est parti d'un questionnement sur la science et on arrive à un questionnement aussi sur la démocratie. Ça c'est très intéressant.
Mais c'est-à-dire que ce qui intéresse les philosophes, c'est effectivement d'accéder au monde vrai, enfin du moins chez Platon, et avec pour application principale, parce que finalement il y a une application quand même, comme quoi la dichotomie connaissance-application est peut-être pas la seule à mettre en avant, l'application que cherche Platon, c'est celle qui concerne les hommes libres, à savoir l'organisation de la société.
Oui. Hein? C'est application, c'est curieux d'appeler ça application, c'est plus une organisation politique. C'est pas application comme au sens où le laser s'applique.
C'est application à la science politique. Oui, c'est comment organiser la société, comment organiser la cité.
Oui.
Ainsi que Platon essaie de le faire dans son livre La République.
Voilà. Alors, donc là, vous voyez, on a resserré la définition du mot science sur quelque chose de beaucoup plus précis. Puisque maintenant, on sait que. Il n'y a de science que dans la mesure où il y a du logos, dans le sens quelque chose d'argumenté, de démontré, ainsi de suite. Et c'est pour ça que finalement, des problèmes cruciaux vont se poser. La science, elle n'est pas accessible à tous.
Oui, et dans la science, on étudie un objet pour lui-même. Pas encore une fois, quelque chose qui est décorrélé des applications éventuelles qu'on peut en faire. Quoi.
Oui. Alors, un autre exemple qui va nous être donné, c'est celui de Galilée. D'accord ? Est-ce que vous voulez commenter sur ce que nous dit Galilée, sur ce que nous dit Jean-Marc Lévy-Leblon de Galilée ? Anne, peut-être tu souhaites dire deux mots ?
Oui, mais là on est avec science et culture.
Oui,
hein,
alors on avance beaucoup.
Il nous disait de Galilée que finalement il utilisait beaucoup sa culture. Et donc, il ne fallait pas être en tant que les scientifiques, par exemple, qui venaient du monde ou de la physique ou de la mathématique, avaient des connaissances qui étaient très vastes, et y compris, et avaient beaucoup de culture. Et donc, il nous racontait une anecdote qui était très, très amusante, peut-être, je ne sais pas, à propos de Galilée. Et il disait, comment est-ce que Galilée va... Il doit mesurer le temps. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, on n'a pas de bon chronomètre et on ne peut pas mesurer le temps. Alors il nous dit comment va-t-il s'y prendre pour mesurer le temps. Donc il a plusieurs possibilités. Une possibilité, c'est d'utiliser son pouls. Mais s'il utilise son pouls, si jamais tout d'un coup il est trop ému, alors ça ne va pas être fiable. Mmh. Parce que ce qui était amusant déjà, c'est qu'on nous disait qu'en utilisant son pouls, on peut être fiable à la demi-seconde si ma mémoire est bonne. Mmh. Donc c'est déjà très... Ouais, c'est déjà assez précis, c'était assez amusant. Et puis après, il nous dit, il a trouvé... Comme la méthode qu'il a trouvée, c'est, on va le voir si on lit. Est-ce que tu veux qu'on...
Oui,
j'essaye de lire,
parce que
je préviens les auditeurs que je n'ai pas mes lunettes. Donc voilà. Donc comment fait-il pour mesurer des temps ? Galilée tente d'utiliser son pouls. À la limite, vous atteignez ainsi une précision de la demi-seconde si vous êtes attentif. Et encore faut-il que vous ne soyez pas trop ému par la découverte géniale que vous êtes en train de faire. Et qu'à ce moment-là, votre pouls accélère et perturbe votre mesure. Alors comment fait-il ? Eh bien, il chante. C'est-à-dire qu'il utilise la musique comme garde-temps. Et tous ceux d'entre vous qui sont musiciens amateurs savent que c'est une des premières compétences de la pratique musicale que de savoir garder le tempo. Ainsi, c'est la culture musicale de Galilée qui lui permet de mesurer le temps et d'arriver à sa loi sur la chute des corps, qu'il vérifiera ensuite avec plus précisément en utilisant des horloges à eau. Voilà.
Ça, c'est des belles pages. Hein.
C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Hein. Il y a beaucoup de petits exemples comme ça.
C'est ce qui nous plaît chez cet auteur, effectivement.
Oui. En tout cas, apparaît ici le rôle de l'expérience.
Oui.
Et donc l'expérience qui fait intervenir la mesure, surtout en physique, même si ici c'est une méthode de mesure rudimentaire. Et ce passage de la spéculation philosophique telle que la pratiquait Platon à l'expérience, c'est une rupture nette. Sur laquelle il faudra sans doute revenir la prochaine fois.
Exactement. Mais pourquoi on va y revenir ? C'est parce que l'expérience à elle seule, est-ce que tu seras d'accord, Nicolas, pour dire qu'elle ne suffit pas à définir la science moderne ?
Non, bien sûr.
Puisque, Jean-Marc Lévy-Leblon dit quelque chose avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que par exemple les Grecs et les Arabes n'expérimentaient pas en tant que tels. En fait, ils faisaient quand même des expériences, chacun de nous fait. Mais ça veut dire qu'à partir de Descartes et de Galilée, un nouveau type d'expérience va se faire jour.
Voilà.
Alors, donc on invite les auditeurs qui le souhaitent à essayer de se procurer ce texte qui s'appelle « Le grand écart, la science entre technique et culture ». Et nous poursuivrons la semaine prochaine cette discussion sur « Qu'est-ce que la science ?» en examinant le rôle crucial d'une part de l'expérimentation, mais d'autre part des présupposés de l'expérimentation et du rapport de nous êtres humains, au réel, à la question de la vérité, qu'est-ce qu'on appelle vrai et qu'est-ce qu'on appelle faux, et comment la science moderne se dégage et comment elle va peut-être déboucher sur quelque chose de neuf du XXIe siècle que Jean-Marc Lévy-Leblon appelle « technoscience ». Cette émission a été enregistrée dans les studios de RCF. Merci à Dominique pour la technique et rendez-vous à la semaine prochaine.